Bonjour à tous, bienvenue dans cette étude journalière. Alors voilà, on est reparti après notre live extraordinaire de jeudi soir. Nous sommes repartis pour une petite étude particulière. On a dit que durant nos études, eh bien le dimanche, nous allons prendre des sujets différents chaque fois. Et là, je voudrais qu'on parle d'un sujet fondamental puisque je voudrais qu'on parle du début de ce qu'on appelle le commencement. Et on va voir est-ce que c'est véritablement de cela qu'il s'agit. En fait, ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui, c'est quelle est ma place dans tout ça. Quel est mon rôle dans tout ça. Alors les amis, allons-y sans perdre de temps. Et pour commencer notre étude, eh bien, je vous sors de la Torah. Je vous amène dans une petite anecdote, voilà, une petite histoire du passé. Nous sommes en 1994. À ce moment-là, votre serviteur n'a que 9 ans. Et nous sommes mercredi soir. Mercredi soir, il est sur le coup des 7 heures. Mon père rentre du travail. Ma sœur, petite sœur qui a 2 ans, n'est pas dans le game, comme on dit. Et mon frère, qui a 3 ans de plus que moi, donc 12 ans à cette époque-là, eh bien, nous sommes tous les trois assis, attablés, en train de manger des pâtes. Et là, mon père rentre du travail et nous dit à nous les garçons, finissez vos pâtes rapidement. Ce soir, on sort. Grosse ambiance, on sort ce soir et on va au cinéma. Nous habitions donc à Metz, nous avons donc été au Gaumont. Et là, c'est parti, on a été voir un film qui va changer ma vie. Je ne plaisante presque pas. Un film extraordinaire, évidemment. Jurassic Park. Ah ouais, là je suis devenu fan des dinosaures. À partir de ce jour, je suis devenu fan des dinosaures. Passion que j'ai transmise à mon fils, bien sûr. Shabbat qui a suivi, nous allions à la synagogue. Alors, on y allait en voiture parce que traditionnaliste, mais on va à la synagogue quand même. Et j'avais une fâcheuse tendance à énerver les rabbins, et donc j'ai été voir le rabbin de la synagogue, Rav Bamberger Zatzal, et je lui dis, voilà, j'ai été voir Jurassic Park et tout, et dinosaures, génial, 65 millions d'années, la folie. Et là, il me répond, c'est des ch'teyais, ch'teyais bemitzak vunias, des bêtises dans du jus de tomate, oui, il y a des explications qui ne se traduisent pas. Enfin bon, ils disent la Terre a 5000 ans et tous ceux qui prétendent le contraire sont des abrutis. Ils n'ont jamais étudié la Torah. Bon, bah, à ce moment-là, dans ma vie, j'ai 9 ans, je suis pas religieux, mais une chose est sûre, les rabbins avec des grandes barbes n'ont rien compris. Steven Spielberg, lui, il a compris. Ce jour-là, nous sommes rentrés à pied de la synagogue car mes parents avaient invité mon oncle et ma tante à venir manger. Et mon oncle étant un autre rabbin de la ville, bah, il ne se passait pas en voiture. Donc, on est rentrés à pied. Et sur le chemin du retour, eh bien, j'ai demandé à mon oncle qui était rabbin, mais avant d'être rabbin vétérinaire de son état et que je savais aussi passionné par les dinosaures, je lui ai parlé de mon aventure cinématographique. Et il m'a simplement expliqué expliqué que oui, tu sais que ce n'est pas forcément incompatible. Il y a des rabbins qui acceptent tout à fait l'idée des dinosaures. Donc, à ce moment-là, dans ma tête, les choses sont claires. Les rabbins avec barbe ont tort. Les petits rabbins avec une petite barbe ont raison. Je t'avoue que ça ne m'a pas plus travaillé que ça. J'ai 9 ans et puis franchement, ça m'intéresse moyen. Sauf que les années ont passé et 18 ans sont arrivés. Je suis parti en Israël après mon bac. J'ai été à la yeshiva. J'ai fait teshuva et à ce moment-là, ce que les rabbins disent, eh bien, tout d'un coup, m'intéresse. Je suis toujours fan des dinosaures, mais je suis intéressé aussi parce que disent les rabbins. Et donc, je commence à regarder et à chercher. Et je me rends compte qu'en fait, eh bien, cette marloquette qu'on pourrait dire comme étant la marloquette due au verset de Bereshit. Je vous montre ici la feuille de source que j'utilise, voilà, pour le cours que je vous donne là maintenant. Et dans cette feuille, eh bien, dans la source numéro 1, de ma feuille, il y a le verset de Bereshit, Vaivra Elohim et Tataninim Agedolim. Dieu a créé les grands lézards. Est-ce que cela voudrait-il faire référence aux dinosaures? Eh bien, nous avons des rabbins qui s'opposent. Et je me rends compte que c'est pas seulement les rabbins de Metz qui s'opposent, mais c'est des géants du judaïsme. Par exemple, eh bien, vous avez un rabbin que vous connaissez tous, le rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Lubavitch, on lui a posé cette question-là, et à son époque, évidemment, on avait déjà retrouvé énormément d'ossements de dinosaures. Alors, il a pas vu le film, mais on connaissait déjà les dinosaures à ce moment-là bien. Et pas seulement les dinosaures, mais l'âge du monde de manière générale. Et à cette question-là, le rabbi répond « Mâche et Omri, mais est-ce que disent les scientifiques qu'ils ont des preuves de ce qu'ils avancent ? Eh bien, ce sont des mensonges, ils n'ont aucune véritable preuve et toutes leurs démonstrations sont basées sur des hypothèses branlantes. » Il le dit dans, par exemple, vous pouvez trouver cette réponse-là dans Igrot Kodesh, Shotsa Igrot, à la page 252. Bekitsour, le rabbi, il dit, non, il n'y a pas eu les dinosaures. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les ossements de dinosaures qu'on a retrouvés? Mais le rabbi dira, c'est un mifran, un test pour ta foi. Dieu a mis ça là, dans la terre, pour faire croire que la terre est vieille, mais en fait, elle n'est pas vieille, et c'est pour voir si tu as véritablement la foi. Attends, ça, c'est l'avis du rabbi Lubavitch. D'un autre côté, eh bien, vous avez un des grands commentateurs de la Mishnah, qui s'appelle Rabbi Israël Lifshitz, bah, la Tiferet Israël, un commentaire de la Mishnah, qui, dans la Mishnah, Maseret Sanhedrin, va nous expliquer la chose suivante. On parle des différentes sortes d'animaux, et nous dit, Vechen Matsanu Gambria Avnit, on a trouvé une créature fossilisée, chez Karoua Iguanodon, un iguanodon. C'est un dinosaure qui avait des pouces énormes, qui faisait comme ça pour attaquer ses prédateurs. Et il parle aussi d'un autre animal qu'on appelle le Megalosaurus. C'est un cousin du tyrannosaure. Dans la Pérouche à Mishnah, du Tiferet Israël, Maseret Sanhedrin, on nous parle des noms des dinosaures, donc ça ne le dérange pas du tout. Et je pourrais citer également ici le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Rachar Hirsch, qui nous dit « Afilu meota alafim umidyona ashanim asher mada geologia mefazer beyad nediva » C'est-à-dire les millions d'années que la géologie nous apprend, eh bien, ne sont absolument pas là pour mettre en péril notre compréhension de la Torah. Au contraire, à Kol Beseder, pour le Rav Hirsch, les dinosaures, millions d'années, tout va bien. Donc on voit qu'on a ici des avis qui divergent. Le Malbim lui dira hein, que j'ai pas de problème de dire qu'il y a eu des dinosaures, mais je peux pas te dire quand ils étaient. Parce que le Mabou lui a mélangé, machin. Ok, mais je peux pas te donner de date. Non. Rabotai, il y a eu des dinosaures, il n'y a pas eu de dinosaures. Qui a raison? Mon oncle ou le Ravon Berger? Qui a raison? Steven Spielberg? Ou le mainstream rabbinique aujourd'hui? Mais les amis, vous êtes en train de vous dire, ça fait 5 minutes qu'il nous parle de dinosaures, c'est sympathique, c'est son kiff, mais quel rapport avec la Torah et nous? Lui, il aime les dinosaures, c'est pas forcément notre cas. Les amis, vous allez voir qu'en fait, il ne s'agit pas du tout des dinosaures et c'est une vraie, vraie, vraie question. Celui qui a donné la réponse de savoir est-ce qu'il y a eu des dinosaures ou il n'y a pas eu des dinosaures, eh bien, c'est un rabbin qui vit à une époque où on n'a pas encore déterré de dinosaures, mais il donne déjà la réponse. Ce rabbin extraordinaire, il s'appelle Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi va nous donner une explication fondamentale. Mais avant l'explication de Rabbi Yehuda Halevi, faut vous dire quoi, non, pas avant. Rabbi Yehuda Halevi écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Sefer HaKuzari. Alors, pour ceux qui n'ont jamais étudié le Kuzari, je le conseille. Je le conseille à tout le monde. Je ne saurais comment le conseiller à tel point je le conseille. C'est un livre fantastique qui existe en français, qui, à mon avis, est plus dur à lire en français qu'en hébreu. Mais bon, qui existe en français, aux éditions Verdier, si je ne me trompe pas. Et c'est un livre fantastique. Pourquoi? En fait, Rabbi Yehuda Halevi se sert d'un événement historique du 9e siècle, lui qui vit au 12, 13e, se sert d'un événement historique du 9e siècle pour s'en servir comme base littéraire à son livre. De quoi parlons-nous? Nous parlons d'un roi d'un pays qui s'appelle la Khazaria, un pays d'Asie mineure comme ça, qui, avec son roi Boulam IX, se sont convertis en entier, lui et son royaume, au judaïsme. Alors, combien de gens exactement? On n'a pas de chiffres, mais une grande partie du monde ashkénaze vient de là-bas. Quoi qu'il en soit, eh bien, 350 ans plus tard, Rabbi Yehuda Halevi se sert de cette histoire et la met en scène dans son livre. Et donc, le livre parle du roi des Khazars, donc le roi de ce peuple de Khazaria, qui un jour fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit un ange qui lui dit, alors c'est un idolâtre, le monsieur, il est très, très religieux dans son idolâtrie. Et un jour, il fait un rêve et l'ange lui dit dans son rêve, tes intentions sont bonnes, mais tes actions ne sont pas bonnes. En d'autres termes, ta volonté de servir Dieu est très bonne, mais la façon dont tu le fais est très mauvaise. Oh bah, alors comment faire? Eh bien, à ce moment-là, il se dit, d'abord, dans un premier temps, il essaie de redoubler d'efforts dans son idolâtrie, mais le rêve revient. Alors il se dit peut-être qu'effectivement, ce que je fais n'est pas bon. Et donc, eh bien, il décide de faire autre chose. Il va aller voir les autres spiritualités ambiantes pour voir quelle est leur façon de se lier au divin. Alors les autres spiritualités ambiantes à l'époque, c'est quoi? C'est évidemment le christianisme, l'islam et... Non, pas le judaïsme, évidemment. La philosophie aristotélicienne. Non, le judaïsme, il est dit, ou badavar, cher la yéhoudim, mais par rapport aux juifs, c'est évident qu'ils ont tort. Puisque regarde comment ils sont persécutés, bafoués et mis au banc de la société, c'est sûr que Dieu, ce n'est pas leur copain. Donc, il va voir le philosophe, le chrétien et le musulman. Ce qui est très intéressant dans le livre, c'est de voir comment chacun présente son idéologie et comment Rabbi Yehuda Halevi les démonte un par un. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, dans un deuxième temps, après avoir été démonté, après avoir montré que l'un, l'autre et le troisième ne sont pas bons, eh bien, Rabbi Yehuda Halevi fait parler le roi des Khazars et dit « Bon, alors, je vais quand même aller voir les Juifs, on va voir. »
Je vais fermer la porte. Merci beaucoup.
Yo. Et donc finalement, eh bien, il va voir le juif et tout le livre, en fait, c'est le dialogue entre le roi des Khazars et le juif. Et ce livre est donc fondamental parce que c'est un dialogue de A à Z où il explique de A à Z, comme je l'ai dit, tout le judaïsme. Et c'est ça qui est fantastique. C'est un livre qui est un livre de questions-réponses. C'est quoi le judaïsme, tout simplement. Et à tel point que c'est un livre fantastique que le Gaon de Vilna dira de ce livre « Ikare emunat Israël tluyim bo ». Vetorah, Ikare emunat Israël, Vetorah slicha tluyim bo. L'essentiel de la Torah d'Israël et de la emunat d'Israël et de la Torah dépendent de ce livre. Donc voilà, c'est un livre extraordinaire. Et à un moment donné, donc, dans le livre, eh bien, Rabbi Yehuda Halevi pose cette question-là. Il fait poser la question dans les mots du Meler Khuzar, du roi des Khazars. Et il lui fait dire la chose suivante. Il dit: c'est quand même bizarre que vous dites que le monde a 4000 et quelques années, donc le livre est écrit il y a 800 ans, alors qu'en Inde, il y a une tradition humaine qui a des millions d'années. En fait, la question qui est posée ici dans le Sefer HaKuzari, c'est quoi? C'est quel est l'âge du monde? Et c'est une vraie question, pas seulement pour les passionnés d'astronomie. C'est une vraie question. Est-ce que le monde a 5780 ans ou est-ce que le monde a 13,7 milliards d'années? Vous allez me dire encore une fois, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Eh bien, vous allez voir à quel point c'est important. Il y a des sources contradictoires dans les balbutiements même du Talmud, dans le Midrash. Par exemple, on va trouver dans le Midrash de Bereshit Rabba, un Midrash que vous connaissez, que Akadosh Baruch Hu créé des mondes et les a détruits. On a créé d'autres, et machin, et le nôtre, c'est le dernier qu'il a créé. Est-ce que ça laisserait penser à une succession historique ou pas? D'un autre côté, quand on nous parle de Adam Arishon dans la Torah, et qu'on nous dit que Vayiven est Atzela, qu'il a pris une partie de Adam pour en créer Chava, le Talmud pose la question, dans le traité de Eruvin, pose la question, et dans le traité de Berachot, c'est n'importe quoi, pose la question à savoir, mais quelle partie de Adam il a pris? Et le Talmud de répondre qu'il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav a dit qu'il a pris de son visage. Mais Shmuel a dit qu'il a pris une partie de sa queue. Quoi, de Adam Arishon, il y aurait une queue? Entre ça et de parler de la théorie de l'évolution, qu'on était des singes, il n'y a qu'un pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'âge du monde? Quelle est la réponse de Rabbi Yehuda Halevi lorsque le Meler Khuzar lui dit « Mais en Inde, il parle de millions d'années, pourquoi toi tu dis ?» Le Khaver, le juif, répond dans le livre de Khuzari à ta chagrin. Tu es un menteur. Ce n'est pas vrai ce que tu me dis qu'il y a une tradition humaine qui a des millions d'années. C'est faux. Il va falloir qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire c'est faux. Quoi? Il n'y a pas des vestiges qui ont des millions d'années? Allez, vous savez quoi? Pas millions d'années. Il n'y a pas des peintures rupestres qu'on a trouvées dans les grottes de Lascaux qui ont 20 000 ans? Et on a, alors que là, vous allez me dire, non, le carbone 14, c'est pas totalement fiable. D'abord, il n'y a pas que des datations au carbone 14. Aujourd'hui, on a d'autres systèmes scientifiques de datation. On a les datations par strates, par couches. Les amis, ça semblerait contredire ce qui est marqué dans la Torah, cette histoire. Qui a raison? Quel âge a le monde? Et pourquoi est-ce que ça doit m'intéresser? Les amis, c'est vrai qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Cette question-là, peut-être une question qui, pour les religieux, n'est pas une question, parce qu'ils disent, en fait, tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est ça qui est vrai, et ce qui est marqué chez les scientifiques, c'est de base faux. Et inversement, les gens qui sont plus des gens de science, ils vont te dire, ah bon, la Torah, elle est un peu archaïque, elle est un peu de l'époque, et machin. Mais c'est tellement une erreur. L'erreur n'est pas de savoir si la Torah est en accord ou en désaccord avec la science. L'erreur, c'est d'essayer de mettre en accord la Torah et la science. La grande erreur, elle est là. Vous savez pourquoi? Bien, je vais vous le dire. Parce que la Torah commence par un verset qui dit « Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz ». et je ne vous ferai pas l'affront de vous demander de me traduire le verset. Non, non, je ne vais pas vous le faire. C'est quoi traduit ? Dans toutes les Bibles traduites, qu'elles soient en anglais ou en français, ou dans d'autres langues, je ne maîtrise pas les autres langues forcément, mais on traduira Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Haaretz par au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. At the beginning ! Et là, je dis non, c'est pas possible. Alors, quand c'est une traduction chrétienne, à la limite, je m'en fiche, j'y comprenne rien à la Torah, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que dans la Bible du rabbinat, c'est qu'on se traduit comme ça. Et j'imagine que dans vos Bibles traduites en anglais par le monde orthodoxe, c'est également traduit comme ça. Et c'est grave. C'est grave. C'est grave d'enseigner des erreurs au plus grand nombre. Parce que de dire que Bereshit veut dire au commencement, c'est que pashut, les gens n'ont pas lu le premier Rashi de la Torah. Ah, c'est l'occasion si pour. Ah non, je m'excuse, excusez-moi, autant pour moi, le deuxième Rashi de la Torah. C'est pas le premier, c'est le deuxième. Dans le premier verset, Rashi. La base, quand t'es un rabbin, t'enseignes, t'as lu Rashi quand même. Rabbi Shlomo Yitzraki. Rashi nous explique, dans le deuxième Rashi de la Torah, que ça ne veut pas dire au commencement, ce sont les mots de Rashi. Rashi nous dit, Bereshit ne veut pas dire Batrala. C'est taout. Il va même nous expliquer grammaticalement pourquoi ça ne veut pas dire Batrala. Parce qu'il te dit que Bereshit, c'est une smichut, c'est un état construit. Et que donc, si on veut dire que ça veut dire Batrala, ça aurait dû vouloir dire Batralat. Et donc, ça veut dire qu'il manque un mot. En gros, en français, si tu me dis que ça veut dire au commencement, ça ne veut pas dire au commencement, ça veut dire au commencement de. Donc, il manque un mot dans la phrase. Au commencement de quoi ? Dieu crée le ciel et la terre. Il aurait dû avoir marqué Bereshit Haolam. Le fait qu'il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Haaretz nous dit Rashi, ça ne veut pas dire au commencement. Ça veut dire Bishvil Reshit. Pour le Reshit, Dieu créa le ciel et la terre. C'est fondamental de comprendre ça. Rashi continuera en disant En a Torah ba lesaper tseder amukdamim va amukharim kloum. La Torah n'est pas là pour nous raconter l'histoire. Le Maharal de Prague dans Be'er HaGola, Be'er HaShishi répond à tous les gens qui étaient déjà à son époque contre toutes les histoires racontées dans le Talmud par nos sages en disant que ce n'était pas possible au niveau archéologique ou au niveau scientifique. Le Maharal répond mais les Chachamim n'ont jamais eu pour vocation de raconter le comment. Ils sont là pour raconter le pourquoi. Et là, je vous comprends. Si on dit que Bereshit, ça veut dire Bishvil Reshit. C'est pour le Reshit que Dieu créa le ciel et la terre. Je ne sais pas ce que c'est le Reshit. Alors, Rashi dira, Israël, la Torah, ça ne nous intéresse pas là maintenant. C'est pour ce truc qui s'appelle Reshit que Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire que la Torah répond à quelle question ? La Torah répond à pourquoi ? La science répond à une autre question qui n'a rien à voir, qui est comment. En français, je te dirais la chose suivante. Tu veux savoir comment Dieu a créé le monde ? Demande aux scientifiques. Tu veux savoir pourquoi Dieu a créé le monde ? Demande à la Torah. En d'autres termes, la Torah et la science n'ont ni à être en accord, ni à être en désaccord. C'est absurde d'essayer de réunir l'un et l'autre. La Torah parle du pourquoi, la science parle du comment. C'est deux choses complètement différentes. Cette course à la preuve est absurde. Le Rav Kook nous dit, dans son livre « L'Univouré Ador » au chapitre 4, il dit « L'évolution », parce qu'à son époque, le Rav Kook, la théorie de l'évolution est déjà bien en place. Cette théorie de l'évolution, qui nous parle d'évolution par des milliards d'années, il dit « Zoï Mareisha » Levavot ktane adea. Ça fait trembler le cœur des gens qui ont peu de connaissances. Je dis, mais évidemment, enfin, de quoi t'as peur en disant que le monde y a des milliards d'années ? Afour ! Qu'est-ce qu'elle nous dit, la théorie de l'évolution ? Ou mieux que ça, la théorie du Big Bang, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle me dit qu'il y a eu un gros boom il y a très 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 longtemps et que de là tout est parti, mais qu'à l'époque du Big Bang, c'était un truc qui a donné une explosion et machin. En gros, qu'est-ce qu'il te dit sans savoir te l'expliquer ? Qu'il y a eu une origine de laquelle est sortie toutes les créatures. Non, non, Rabotaï, non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça deux fois par jour. Be'ahava, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Que Dieu est un, qu'il y a une origine, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, et qui a créé le monde. Mais qu'est-ce que je m'en fiche, moi, de savoir que lorsque Dieu a parlé, qu'il a dit Bereshit. Dans les faits, c'est passé une explosion. Cheyenne, la briote, la Torah n'en parle pas. Donc, si la Torah n'en parle pas, bah, on n'a pas à être ni pour ni contre. Vous comprenez ? De dire que la théorie de l'évolution contredit la Torah. Non, 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 non ! Il y a marqué dans la Torah qu'Adam a Rishon, il a été fait par la terre de la... Toute cette histoire qui me parle d'Adam Arishon, qui a été fait de la terre, de la poussière de la terre, ça se passe où, cette histoire-là? Ça se passe au Gan Eden, si je ne me trompe pas. Effosé. Non, parce qu'après le corona, on avait prévu de prendre des vacances avec ma femme au Gan Eden. C'est où? Hein, non, il n'y a pas d'agence de voyage qui vont au Gan Eden? Gan Eden, Bimchila Lechvotrem, bien que ce soit une marloquette chez les Rishonim, il n'empêche que le mainstream des commentateurs vont dans le sens que le Gan Eden, bien qu'il puisse avoir une représentation, bien qu'il puisse avoir une façon de le comprendre, de le percevoir, pauvre Olam Hazeh, le Gan Eden, ce n'est pas ici. Je ne sais pas si vous avez déjà été malheureusement à des enterrements. Quand on va à un enterrement, on dit « Began Eden ti emenuchato ». Mais de qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle du corps du défunt? Eh bien sûr que non. Le corps du défunt, il est dans le trou. On parle de son âme. Le Gan Eden, c'est l'endroit des âmes. La Rota in Neshama, c'est pas physique. Ce qui veut dire que tout ce qui nous est, ça c'est un chidouche énorme que nous enseignait le Rav Ashkenazi Manitou. Il faut étudier la Torah de Manitou. La Rota, il faut étudier la Torah de Manitou, c'est fondamental aujourd'hui. Je lance ici un appel, peut-être qu'un jour on se lancera. Je le fais déjà en Israël, mais c'est quelque chose de fondamental, de réétudier la Torah verset par verset avec cette explication du Rav Ashkenazi Manitou, fantastique. Enfin bon, je me mets ça dans un petit coin. Dès le Rav Ashkenazi, tout ce qui est marqué dans le premier et deuxième chapitre du livre de Bereshit ne peut pas être compris au sens littéral. Ou du moins si, doit être compris au sens littéral, mais pas au sens physique. C'est-à-dire que tout là-bas nous est présenté comme étant les constructions dans le Gan Eden, ou qui amènent au Gan Eden. C'est-à-dire une construction purement métaphysique, ce que Platon appellera le monde des idées. En d'autres termes, lorsqu'on nous parle de la formation de Adam, on nous parle de sa neshama. Mais Behemet, sa neshama, elle a été faite. Mais Adam, mais Afar, mais Adama, il faudrait comprendre chaque mot, ce qu'il veut dire là-bas. À quoi ça correspond? Vous allez me demander, mais alors pourquoi est-ce que la Torah parle avec des mots qui sont très très personnifiables? Des mots avec un anthropomorphisme énorme? Des mots avec des arbres, des animaux? Mais c'est évident! Si la Torah avait parlé en termes métaphysiques, on n'aurait rien compris! Donc la Torah nous personnifie la chose pour qu'on comprenne de quoi on parle. C'est comme dans le livre de Shemot quand on va parler de Yad Hashem. Vayroam ta Yad Agedola Asher Asa Hashem Mitzrayim. Nous, Bemet, Dieu, il a une grande main. Vadaï que non. Mais c'est pour qu'on comprenne. Ainsi, dans le livre de Bereshit, tout ce qui est marqué, qui nous amène jusqu'à l'expulsion de Adam et Chava du Gan Eden, c'est apprendre au sens métaphysique. En d'autres termes, on nous apprend la construction de la neshama, de l'essence de Adam. Son corps, il n'y en a pas. Parce que tant qu'il est au Gan Eden, il n'y a pas de corps. Et il naît. La Torah nous raconte que Adam et Chava faute. Nous raconte l'expulsion du Gan Eden. Et à ce moment-là, la Torah nous dit, au moment où ils sont expulsés du Gan Eden, que Akadosh Baruch Hu va faire la Adam ou l'Eishto kutnot or vayalbishem. Il leur a fait des tuniques de peau. Et nous, au Gan, on a appris que c'était de la peau de léopard ou de mammouth. Mais non, les amis, c'est de la peau, c'est le corps. Vayas Hashem Elohim, l'Adam ou l'Eishto, coûte notre or, de la peau. Sauf que Vayas, ça veut dire c'est parfait. En d'autres termes, la Torah ne nous explique pas comment Dieu a fait ce corps. Lama lo, que Dieu il a fait ce corps par des millions d'années d'évolution pour arriver à l'Homo sapiens. Efo katouf batora, l'inverse. Nulle part. La Torah ne nous parle pas du corps de l'homme, de la création du corps de l'homme, de comment il a créé le corps de l'homme. Pourquoi? Parce que ça, c'est le comment. Et le comment n'intéresse pas la Torah. C'est le problème des scientifiques. Et les scientifiques vont travailler. Ils vont nous parler de lustie, ils vont nous parler de Toumaï, ils vont nous parler de Homo erectus, et Homo habilis, et Homo ergaster. Et après, ils vont nous parler de Néandertal, et que finalement, son cousin Homo sapiens, il va être plus fort. Et finalement, on va gagner. Et finalement, eh bien, il y a 5780 ans, très exactement, et ça, c'est facile à compter. Il suffit de prendre les versets de la Torah avec les âges de chacun, quel âge il a enfanté, là, là, là. Il y a 5780 ans, Adam Arishon arrive ici. Sa Neshama sort du Gan Eden et Dieu la met dans un corps. Dans un corps de qui? D'un homo sapiens qui avait là. Oui, je suis en train de vous dire qu'à l'époque où Adam Arishon arrive ici, il y a des milliers d'homo sapiens sur Terre. Vadaï! Mais ils ne sont pas Béné Adam, ils ne sont pas Adam. Parce que homo sapiens, c'est Sarakol, un animal plus intelligent. Pour être un homme, il faut avoir ce petit plus qui s'appelle la Neshama. Alors vous allez me dire, alors comment ça se fait qu'on est tous des descendants de Adam? Oh, fastoche. Soit Torah, soit science. Fastoche, les deux. Torah, je te dirais, bah, entre Adam et nous, il y a eu le déluge. Donc tout le monde est parti sauf les descendants de Adam. Donc facile. Mais même au niveau scientifique, la théorie de l'évolution nous parle de la sélection naturelle. L'espèce la plus forte gagne. Bah, entre un homo sapiens et Néandertal, homo sapiens était plus fort. Donc il a détrôné Néandertal, il n'y a plus de Néandertal. Bah, entre homo sapiens plus Neshama, ben, l'homo sapiens plus Neshama est le plus fort. Donc il gagne. Et puis c'est tout. Donc nous sommes tous les descendants de Adam Arishon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres homo sapiens à l'époque. Mais bataille. Mais au final, les enfants de Adam se sont... Sans parler du Midrash. Et lui, il a eu une sœur jumelle et machin. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'ils ont pris d'autres femmes. Adma, Makara, on n'en parle pas dans la Torah. Et alors? Je veux dire, il y a plein de choses dont la Torah ne parle pas. La Torah ne parle pas des Chinois. Bizarre. Pourtant, ils ont une place prépondérante, surtout aujourd'hui. La Torah n'en parle pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Chinois. Ça veut dire que pour comprendre l'ambiance de la Torah à l'époque d'Abraham, ça ne s'intéresse pas à les Chinois. Parce que ce n'est pas cette partie du monde qui est la partie consciente de l'humanité à ce moment-là. La Torah raconte le pourquoi et ne raconte pas le comment, Rabotai. En d'autres termes, il n'y a aucun problème de parler de millions d'années de dinosaures, on s'en fiche. C'est juste que la Torah n'en parle pas. Je veux dire mieux que ça, comment je sais tout ça? Et parce que Rabotai, il est évident que les 6 jours de la création ne sont pas 6 jours de 24 heures. Comment je le sais? Bah parce que 24 heures, c'est la révolution de la Terre sur son axe par rapport à son orbite autour du Soleil. Mais le Soleil n'a été créé que le 4e jour, alors on fait quoi des 3 premiers? Hein, Rabotai? Nachon, je suis en contradiction avec pas mal de Rishonim, mais je suis en accord avec pas mal d'autres Rishonim, alors c'est bien. Rabotai, Manitou expliquait le contraste, le problème qu'on a avec Vayere Vayvoker Yom Echad et ensuite Vayere Vayvoker Yom Sheni. Il y a un problème. Si tu dis Yom Echad, le deuxième, il faut dire Yom Shtaim. Et si tu dis Yom Sheni, bah, le premier, il fallait dire Yom Rishon. C'est Yom Echad. Yom Echad, c'est Yom Echad. Il est un, il se suffit à lui-même. Yom Sheni, c'est pas le second. C'est Yom Sheni Shehu Echad. C'est la deuxième fois que Dieu crée un monde entier, mais d'une autre facette. Vashlishi ou Shlishi Shehu Echad, d'une autre facette. Et ainsi de suite. Bon, en d'autres termes, il n'y a aucune contradiction entre la science et la Torah, puisque les deux parlent de deux choses différentes. Mais la question qui, moi, m'intéresse, c'est mais pourquoi la Torah m'en a pas parlé? Pourquoi elle s'en fiche? Ben, je vais te dire pourquoi elle s'en fiche. Parce que si la Torah... Voilà ce que tu vas pouvoir penser. Si le monde a des millions d'années, des milliards d'années, et que l'histoire humaine a des millions d'années, comme a dit notre Meller Kouzar, vous rappelez que le Kouzar a dit que tu es un menteur? Je vais vous dire pourquoi. À l'école, on nous a appris une chose. On nous a appris qu'il y avait l'histoire, l'histoire avec un grand H. Et on nous a appris aussi qu'il y avait un truc qui était avant. Ça s'appelait comment? La préhistoire. C'est quand le passage de la préhistoire à l'histoire? Eh bien, d'après ce qu'on enseigne à l'école partout, le passage de la préhistoire à l'histoire, c'est l'invention de l'écriture. Il y a à peu près, bah on va dire, c'est en moins 3000 et quelques, moins 3500, moi je suis casé. C'est-à-dire, il y a un peu plus de 5500 ans. C'est intéressant. Le monde entier dit qu'il y a un peu plus de 5700 ans, on est passé de la préhistoire humaine à l'histoire humaine. Tiens, ça sonne connu, parce que moi je sais qu'il y a 5780 ans, il s'est passé un truc de ouf. Peut-être qu'il marque le début de l'histoire. En d'autres termes, l'homme préhistorique, il est préhistorique. Il est avant l'histoire. C'est quoi l'histoire humaine? C'est lorsque l'homme écrit. Lorsqu'il écrit, il laisse une identité. Les peintures rupestres, c'est bien gentil, ça nous montre qu'il y avait des formes de vie intelligentes, mais ça ne laisse pas une identité. L'homme qui écrit, c'est l'homme qui transmet non pas seulement son savoir, mais qui il est. L'homme a laissé sa trace dans l'histoire en tant que tel il y a 5780 ans. Il a commencé à raconter son histoire. Shavlam Azekhashou. Parce que si on place cet humain dans un monde qui a des milliards d'années, bien vous savez ce qui va lui arriver à cet humain ? Eh bien, il va se dire « Avalmiani, betor kol adavarazé. » Mais je suis qui, moi, dans ce monde énorme ? Je ne suis rien du tout. Vous savez, dans la halakha, qu'est-ce qui se passe quand je fais tomber une goutte de lait dans mon plat de tchoulen, de dafina, de preila ? Ben, vous connaissez la règle. Si c'est moins d'un soixantième, batel bechichim. Si je m'inscris dans une histoire qui a des milliards d'années, ani batel bechichim. C'est pourquoi dans la fin de la paracha de Bereshit, Dieu dit « Je ne laisserai plus les hommes vivre aussi longtemps. » Lo yadon ruchi ba adam ki beshagam leolam beshagam ubasar veyu yamav mea veesrim shana. L'âge idéal de l'homme, c'est 120 ans. Qu'il a atteint, Moshe Rabbeinu, l'homme idéal, éphémère. 120 ans ? Rappelez-vous, le monde a peut-être des milliards d'années, mais la Torah, à nous, nous a dit Bereshit, bara Elohim et Hashem avait arrêté, nous dit la Gemara, Altikra Bereshit et la Barachet. Pour 6000 ans, le monde a été créé. Ce n'est pas le monde physique, le monde physique, il y a beaucoup plus, mais le monde dans lequel l'homme a une influence à 6000 ans. Alors dites-moi, les amis, c'est combien un 60e de 6000 ? C'est 100. La Torah m'a dit, toi, tu vas vivre 120 ans, un peu plus qu'un 60e. Comme ça, l'homme ne sera pas annulé au 60e. Il ne sera pas batel bechishim. Ça veut dire que tu as une influence. Bonjour, Ria, tu sais, il y a le monde entier se voit et te voit tout nu. Non. Tu peux la tête de Vakasha ? Archav de Vakasha. Merci beaucoup.
Lorsque je viens et que je dis je vais vivre 120 ans dans un monde qui est 6000 ans, le monde de l'influence de l'homme, je viens dire Anilo Batel Beshishim. Je ne suis pas annulé au 60e. Ce que je fais a une influence. J'ai une influence dans ce monde. Pourquoi le Rabbi Lubavitch dit non, ne crois pas à dinosaures, tout ça, à mon avis. C'est parce qu'il sait dans quel monde il vit, les années 70, les États-Unis, les hippies, rien n'a d'importance, faisons l'amour, pas la guerre, yallah. Il est un éducateur et il dit non, ce que tu fais va avoir une incidence. Parce que si tu t'inscris dans un monde qui a 6000 ans, alors ce que tu vas faire durant tes 120 ans, bah ça reste. Mais si tu te dis que tu fais partie d'un monde de milliards d'années, s'en fiche de ce que tu vas faire dans 250 millions d'années, personne ne va s'en rappeler. En d'autres termes, la Torah nous invite à nous dire prends tes responsabilités. Ce que tu fais a une influence dans le monde. Ce que tu fais va rester. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous fait confiance. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu termine les 6 jours de la création en nous disant « Kivo Shabbat mikol melachto asher bara Elohim la'asot » C'est-à-dire, moi j'ai arrêté, nous dit Dieu, c'est à vous maintenant de participer et de parfaire la création du monde. Vous en êtes capable. Et donc si Dieu nous dit qu'on en est capable, je pense qu'on en est capable. Donc on va y arriver, et à ce moment-là, eh bien, lorsqu'on aura terminé notre boulot, on pourra ouvrir le Sefer Torah et terminer en disant, eh oui, parce qu'on est toujours dans le septième jour, vous savez, le septième jour de la création n'est pas terminé. Et donc, à ce moment-là, on pourra dire, Vayar Elohim Kitov, Vayerev Vayvoker Yom HaShevi'i, et à ce moment-là, on rentrera dans le huitième jour, Yom Shekulo Shabbat, Vayemazekef. À bientôt les amis.